Pour aujourd'hui et pour dimanche prochain, vous allez me subir deux dimanches de suite, je voudrais vous proposer de reprendre ensemble le verset qui a inspiré notre mot d'ordre et qui est affiché à l'écran, notre mot d'ordre qui, vous le savez, est « Ouvrier avec Dieu ». Et le verset qui l'inspire, il est même tiré du verset de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et sur ce qui est affiché à l'écran, vous avez en noir la version seconde de laquelle est tiré notre mot d'ordre, et vous avez en bleu en dessous le mot à mot, la traduction mot à mot du texte grec, car nous sommes ouvriers avec Dieu, en mot à mot c'est « de Dieu, en effet, nous sommes collaborateurs ». Et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Le mot à mot dit « de Dieu champ, de Dieu construction, vous êtes ». Donc a priori, quand on compare les deux choses, pas de difficulté particulière d'interprétation. Et pourtant, à y regarder de plus près, je trouve quand même que ce verset a quelque chose de déroutant. On a tous les ingrédients d'un grand domaine terrien. Un champ, une maison, un édifice, des ouvriers, un maître. Et avec des ingrédients de cet ordre, ils vous viennent assez facilement à l'esprit des images, comme peut-être chez nous de grands domaines vinicoles, ou si on va plus loin, en d'autres temps, une plantation de coton dans le sud des États-Unis, ou de café en Afrique. Avec de telles images, on bascule vite dans un schéma tout fait, le champ dans lequel travaillent les ouvriers, la maison au milieu ou en bordure du champ, et le maître dans la maison. Une place pour chaque chose à sa place, et comme on dit, les vaches seront bien gardées. Seulement, c'est pas du tout ça qui nous est écrit ici. Le maître semble travailler au milieu des ouvriers, et il y a des gens au milieu de tout ça, nous en l'occurrence, qui sont eux-mêmes à la fois le champ et l'édifice. Et ça fait donc un peu voler en éclats cette image qui viendrait spontanément à notre esprit lorsqu'on lit ce message et qu'il rend un peu déroutant. En fin de compte, qui est qui dans cette image? Qui est quoi? Et c'est ce qu'on va essayer de creuser. Pour l'un des protagonistes, celui qui est le plus cité, c'est pas trop difficile. Dieu est le propriétaire et le maître. Mais tout de même, un maître qui travaille manifestement. Et qui plus est, qui est au travail au milieu des ouvriers. Voilà qui n'est pas courant et bouscule notablement l'ordre établi. Dieu n'est pas ce personnage lointain qui se tient sur le parvis de la maison et contemple son domaine et voit de loin les ouvriers travailler au champ en ne les considérant que comme des bras et des jambes à son service. Au contraire, il se tient proche d'eux, travaille avec eux, les connaît personnellement et accomplit une part notable du travail. Une part que peut-être sous leur propre charge, et ils ont du mal à voir sur le moment, mais qu'après coup, une fois le travail accompli, il leur saute aux yeux que le travail a avancé bien plus que ne leur aurait permis leur propre force. Nous y reviendrons, mais voilà pour ce qui est de Dieu. On parle aussi de champs, d'édifices ou de constructions. On aurait envie de voir là deux entités collectives, comme l'Église. Et assurément, la notion n'est pas totalement absente. On aurait envie de voir là un champ d'action. Clermont, ses alentours, l'Auvergne. Et assurément, cette notion n'est pas totalement absente non plus. Mais si on s'en tient au mot à mot des textes grecs, on lit « de Dieu champ ». De Dieu, construction, vous êtes. Comme ce texte est tiré d'une lettre, écrite par Paul. Ce sont donc à tous les destinataires de cette lettre que s'adresse cette déclaration, en l'occurrence les chrétiens de la ville de Corinthe. En tant qu'Église, bien sûr, mais en tant qu'individu, premièrement. Paul est en train de leur dire, le champ, c'est vous. Le champ, c'est toi. Ce n'est pas cette notion globalisée, mais un peu floue, du territoire sur lequel nous agissons. Le champ, c'est nous. Le champ, c'est moi. L'édifice, la construction, ce n'est pas seulement cette entité de l'Église derrière laquelle on peut parfois être tenté de se retrancher. La construction commence par nous individuellement. L'Église commence par moi. Il est bien évident que, au-delà seul des Corinthiens à qui s'adresse cette lettre, c'est à tous les croyants que Paul s'adresse, même si ce n'est pas sa préoccupation du moment. Ses paroles s'adressent à tous les croyants. Et nous le savons fort bien, et nous le pratiquons couramment. Nous considérons le peuple d'Israël comme le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, mais lorsque nous avons cru, nous aussi, nous nous sommes sentis individuellement peuple, membres du peuple de Dieu, et collectivement, l'Église est aussi devenue le peuple de Dieu. Et donc, ce qui était adressé, les paroles qui étaient adressées à Israël en tant que peuple, nous sont aussi adressées à nous en tant que peuple de Dieu. Le champ de Dieu, c'est nous, hommes et femmes, croyants de notre temps. Mais ce champ ne s'arrête pas à la clôture qui en délimite les bords. Et elle ne s'arrête pas donc à la clôture qui délimite les contours du peuple de Dieu. Elle ne s'arrête pas à ses murs. Dieu agit là même où nous ne travaillons pas encore, au-delà des limites de champ, limites que nous sommes assez facilement enclins à poser. Nous sommes le champ de Dieu, mais le champ d'action de Dieu est beaucoup plus vaste et concerne tous les hommes. L'édifice de Dieu, la construction de Dieu, c'est nous, en tant qu'individus, qui élèvent vers Dieu sa louange, son adoration, et par extension, l'Église. Dieu agissant sans relâche au fond de nos cœurs, dans nos assemblées, pour tourner nos cœurs vers lui, tourner nos regards vers lui. Et de même, il appelle tous les hommes à tourner leur regard vers lui. Donc nous avons déjà défini trois des ingrédients qui sont mentionnés là-dedans. Hein, Dieu, je n'ai pas envie d'appeler Dieu un ingrédient, excusez-moi. Dieu, bien sûr, le maître, le propriétaire, le champ et l'édifice. Pour ce qui concerne les ouvriers, maintenant, on a besoin d'approfondir un petit peu plus le contexte. Le contexte mériterait qu'on remonte même au début de l'Épître aux Corinthiens, mais déjà, revenir au verset 4 nous fournirait un bon aperçu. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première Épître aux Corinthiens, au chapitre 3 et à partir du verset 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Paul? Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Voilà donc une partie seulement, mais une partie intéressante du contexte qui nous amène à cette image de champ, d'édifice, de maître et d'ouvrier. Et donc c'est là que, au terme de ces considérations entre Paul et lui, entre Apollos et lui, que Paul dit vous êtes ouvrier avec Dieu. On le voit donc, Paul dans ce passage faire mention d'un certain Apollos, et il fait d'ailleurs déjà mention de lui au chapitre 1, au tout début de l'épître. Qui est donc cet Apollos? Le livre des Actes nous décrit Apollos comme un juif originaire d'Alexandrie, éloquent, bon orateur selon certaines traductions, et dans le mot à mot grec, bouillant en l'esprit, et versé dans les Écritures. Donc un homme éloquent, vif d'esprit, et versé dans les Écritures. Habituellement, j'évite de citer nommément en chair des personnes de notre assemblée, mais comme cette personne n'en fait plus partie, je peux bien vous dire avoir souri intérieurement en lisant cette description d'Apollos qui m'a rappelé notre frère Olivier Randol. Fervent d'esprit, versé dans les Écritures, voilà qui décrit bien, on peut faire un parallèle assez frappant. Cependant, Apollos lui avait quand même une grosse lacune en arrivant à Éphèse, et c'est dans cette ville que la Bible en parle pour la première fois. C'était un juif, instruit autant qu'on peut l'être dans les voies de Dieu, qu'il annonçait, nous est-il dit, avec exactitude dans la synagogue, notamment en ce qui concernait le Messie, la venue du Messie, le Christ. Et c'était pas si fréquent. De nos jours, on a peut-être tendance à imaginer les Juifs qui étaient comme étant dans l'attente active du Messie, mais si ça avait été le cas, ils l'auraient reçu et la plupart ne l'auraient pas rejeté. Nous-mêmes, sommes-nous dans une attente active du retour de Jésus et vivons-nous comme s'il pouvait revenir d'un instant à l'autre? Or, il semble qu'Apollos était tout entier dans cette attente, et peut-être même avait-il reconnu Jésus comme le Christ. Mais il nous est dit qu'il ne connaissait que le baptême de Jean-Baptiste. Et ce n'est pas un cas isolé, enfin pas très isolé, parce qu'un peu plus loin, on voit toujours dans les Actes une douzaine d'autres croyants, d'Éphèse aussi, qui avaient été baptisés du baptême de Jean, donc du baptême de repentance, et n'avaient même jamais entendu parler du Saint-Esprit. Ils se sont donc fait baptiser par la suite au nom du Seigneur Jésus et ont reçu le Saint-Esprit comme tout croyant en Jésus-Christ. Comme quoi, entre parenthèses, on peut aussi se refaire baptiser si un premier baptême n'était pas porteur de la signification profonde qui lui est attachée, quand bien même il se serait passé dans les formes les plus académiques, puisque, que je sache, le baptême de Jean se pratiquait bien par immersion, tout comme le baptême chrétien. Mais sa signification différait, et c'est ce qui a conduit Paul à baptiser cette douzaine de personnes, cette fois au nom du Seigneur Jésus. Et par quel phénomène est-ce qu'on retrouve à Éphèse, si loin de la Judée, et autant de temps après, des personnes qui connaissent aussi bien, qui connaissent, je dirais, tout sur Jean et presque rien sur Jésus, sur la vie de Jésus, la rédemption par son sang versé sur la croix, la sanctification par le Saint-Esprit? Je ne sais pas trop par quel phénomène. Est-ce que des disciples, l'Évangile nous parle de disciples de Jean-Baptiste, est-ce que ce sont des disciples qui se sont dispersés avant d'avoir su quel avait été le ministère de Jésus? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est le cas d'Apollos quand il arrive à Éphèse. Et là, à Éphèse, il rencontre un couple de juifs devenus chrétiens. On voyageait beaucoup, on nous dit que ce sont des chrétiens qui, originaires du pont, qui avaient été chassés d'Italie. Enfin, manifestement, il n'y a pas qu'à notre époque qu'on voyage. Hein. Et donc un couple de juifs devenus chrétiens, Priscille et Aquilas, ceux-là même chez qui Paul avait travaillé à confectionner des tentes du temps où ils étaient à Corinthe, où ils étaient ensemble à Corinthe. Et là, à Éphèse, un peu plus tard que cet épisode à Corinthe, ce couple, Priscille et Aquilas, constatent, lorsqu'ils voient arriver Apollos dans leur ville, constatent la lacune importante qui subsistait dans l'enseignement d'Apollos, et ils le prennent à part pour lui expliquer, nous est-il dit, plus exactement, tout ce qu'il ignorait encore du plan de Dieu. Et on voit ensuite notre brave Apollos, probablement convaincu, qui s'embarque pour Corinthe, encouragé et recommandé par les chrétiens d'Éphèse à ceux de Corinthe. Et il est là très apprécié par les Corinthiens en mettant son éloquence et sa connaissance des Écritures au service de l'Évangile, notamment quand il s'agit de démontrer aux Juifs que Jésus est le Messie. Vous imaginez les Corinthiens, ils ont eu sous les yeux ces deux personnalités quand même très fortes, hein, très, très, très marquantes, assez exceptionnelles. D'un côté Paul, et de l'autre côté Apollos. Et pour peu que l'approche de l'un ait été un peu différente de l'approche de l'autre, on peut imaginer aisément combien il était tentant de se réclamer d'une sorte de mentor, hein, soit de l'un, soit de l'autre. Et c'est bien là que le point sur lequel Paul attire l'attention des Corinthiens, et si vous voulez tourner une page au chapitre 4, verset 6, il leur dit ceci. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. Alors, de quoi il parle quand il parle d'application? Eh bien, il parle de ce qu'il vient de dire un petit peu plus tôt, quand il a pris cette image, j'ai planté, Apollos a arrosé. Afin que vous nous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Que ce soit pour accorder plus d'importance à l'enseignement de l'un et au détriment de l'autre, hein, l'un et l'autre étant Paul et Apollos, ou plus probablement peut-être pour prendre l'ascendant sur un frère en se revendiquant disciple, en disant que nous avons pour mentor Paul, soit Apollos. Voilà, c'est ce que Paul les met en garde de faire. Et c'est pas très gratifiant pour celui dont l'enseignement est utilisé dans ce but. Les enfants font ça très bien dans leurs disputes entre frères et sœurs. Papa a dit, maman a dit que, et puis l'autre lui répond, oui, mais papa dit toujours. Et chacun se revendique de l'un ou l'autre, et c'est pas très gratifiant pour aucun des deux parents. Paul, au contraire, lui fait ressortir la complémentarité de leurs dons et de leurs services. Personne ne plante comme Paul, et personne n'arrose comme Apollos. Personne ne pose par son autorité les fondements de la foi chrétienne et de l'Église comme Paul. Et personne n'illustre par son éloquence la prophétie biblique et ne rafraîchit la foi des croyants comme Apollos. Mais Paul reconnaît aussi que ni le travail de l'un ni le travail de l'autre n'aurait de sens si Dieu lui-même ne faisait croître la semence. Vous pouvez toujours ensemencer, vous pouvez toujours arroser, mais s'il n'y avait pas dans la terre les nutriments nécessaires à la croissance, s'il n'y avait pas les conditions propices aux échanges entre la graine et la terre, ce serait bien en vain que vous planteriez et que vous arroseriez. Si on veut faire un parallèle avec le corps humain et la médecine, il en est un peu de même. Les médicaments, je sais qu'on a plusieurs médecins ou médecins en devenir parmi nous, mais j'espère qu'ils ne me contrediront pas, mais les médicaments que nous prenons pour soigner telle ou telle maladie n'ont pas le pouvoir de nous en guérir. Ils ne font que déclencher, accélérer ou stimuler des processus de guérison déjà présents en nous, à l'état naturel et que Dieu a mis en place dans son action créatrice. Et c'est pour cela qu'on emploie le mot « soin » pour parler de l'action médicale, parce que ce n'est pas en elle, ce n'est pas dans l'action médicale que réside la capacité de guérir, mais seulement dans le corps du patient. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de guérison dès lors qu'il s'agit d'un miracle, et les évangiles emploient expressément le mot « guérison » lorsque Jésus guérissait des malades, parce qu'il les guérissait c'est pas qu'il les soignait. Quand nous prions pour les malades, c'est pour leur guérison que nous prions et non pour leurs soins. Les soigner, c'est la part qui nous revient, chacun avec sa part de compétences, de connaissances, les médecins d'entre nous en premier lieu, bien entendu. Quand Paul souligne la primauté de l'action de Dieu qui fait croître, il met en évidence que, en l'absence de cette action de Dieu sur la croissance, son action propre, la sienne propre à Paul et celle d'Apollos serait vaine. Si Dieu n'avait pas inscrit dans les lois de la nature et largement répandu le processus de croissance tiré de la terre, plantez et arrosez tant que vous voulez, mais rien ne poussera. Même pas des mauvaises herbes d'ailleurs. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Si vous ne plantez pas et n'arrosez pas, il trouvera toujours quelques plantes à pousser, avec quelques difficultés, et plutôt chétives, ou alors des mauvaises herbes en abondance qui, par leurs épines, exploiteront la richesse du sol pour produire des épines et étouffer d'autres semences. Je me souviens, quand j'étais enfant, nous apprenions, je pense que ça se fait toujours, à mettre une graine de haricot dans un coton imbibé d'eau. Et puis, on regardait ce qui se passait dans les jours qui suivaient et on voyait la graine germer et une feuille commencer à pousser, à se développer. C'était assez rapide, c'était impressionnant. Mais rapidement, la plante se desséchait et même si nous entretenions l'humidité du coton, d'ailleurs, rien n'y faisait. Elle ne trouvait plus en elle-même les nutriments pour poursuivre sa croissance. On plante, on arrose, mais si on se prive du sol qui peut faire croître, les ressources contenues dans la graine ne sont pas suffisantes pour assurer le développement normal jusqu'à la maturité et encore moins pour produire du fruit à son tour. Donc l'action souveraine de Dieu est de loin la plus essentielle, profonde, créatrice de vie, guérissante. L'action de l'homme, elle, vise à favoriser un processus en rapprochant la graine d'une terre qu'il aura préparée et en l'arrosant ensuite et déclencher ainsi un processus qui lui échappe totalement. Qui peut dire qu'il y ait pour quelque chose dans la croissance de la plante qu'il aura semée, sachant totalement que c'est ainsi que ça fonctionne. C'est tout ce qu'il sait, que voilà, on met une graine dans la terre, on recouvre un peu, on arrose, et il y a une plante qui sort, c'est comme ça que ça marche. Donc l'action de l'homme consiste à favoriser les conditions, elle est de l'ordre du soin, comme on le disait tout à l'heure, de l'attention, de l'entretien, de l'accompagnement. Et donc, revenons à notre texte, Paul vient de démontrer la primauté essentielle de l'action de Dieu. Il vient d'expliquer en quoi Apollos et lui ont été complémentaires et, pour ainsi dire, associés à l'action de Dieu auprès des Corinthiens. Et donc, ça répond à la question que nous nous posions tout à l'heure. Dans la déclaration de Paul, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, les ouvriers, c'est qui ?» Ah, c'est Paul et Apollos. Et vous, Corinthiens, vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Mince alors. Mince. Et nous ? Et nous ? Et notre mot d'ordre ? Nous avions fait notre, ce verset qui disait « Nous sommes ouvriers avec Dieu », et puis voilà, maintenant qu'on nous l'enlève, on nous dit « Non, c'est pas vous, c'est Paul et Apollos ». Des hommes exceptionnels, certes, mais voilà, quoi. Tout d'abord, vous remarquerez que l'expression qui est rendue par « ouvrier de Dieu », lorsqu'on lit le mot à mot « ouvrier avec Dieu », pardon, est rendue dans le mot à mot grec comme « nous sommes collaborateurs ». De Dieu, nous sommes collaborateurs. Ça a son importance et j'y reviendrai. Ensuite, est-ce que quand Paul dit « nous sommes collaborateurs », est-ce que c'est un « nous » exclusif ? Est-ce que ça veut dire « nous seuls sommes collaborateurs de Dieu » ? Il semble évident que, bien sûr, dans le cas présent et dans sa démonstration, où il explique, suite au désordre qu'il y avait chez le Corinthien, qui se revendiquait d'Apollos ou de Paul, il dit non, nous sommes collaborateurs de Dieu, l'un et l'autre, prenez-nous comme tels, mais c'est pas un nous limitatif, bien sûr. Et il y a une dimension de cette déclaration qui déborde leur seul cas particulier. Je ne sais pas si Paul a en arrière-pensée cette idée au moment où il écrit ces mots, mais il est à peu près évident qu'il ne se considère pas, lui et Apollos, comme les deux seuls collaborateurs de Dieu que la terre ait portés. D'ailleurs, nous verrons la semaine prochaine qu'il associe également Pierre à cette catégorie des collaborateurs de Dieu. La traduction par le mot, je reviens là-dessus, j'ai dit qu'on en parlerait, la traduction par le mot ouvrier pourrait laisser entendre qu'on parle là de ministère à plein temps. Le mot ouvrier a un petit peu cette connotation-là. Et d'ailleurs, lorsque Paul exhorte Timothée à se comporter en ouvrier digne de Dieu, il emploie un autre mot que celui-là, qui est traduit à juste titre comme ouvrier, par ouvrier. Et c'est ce même mot qu'utilise Jésus lorsqu'il déclare que la moisson est grande, qu'il y a peu d'ouvriers et qu'il est nécessaire de prier le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et j'ai la quasi-certitude que dans ces deux cas-là, on parle effectivement de ministère à temps plein. Mais ici, dans notre texte aux Corinthiens, le mot employé signifie vraiment collaborateur. Et Paul l'utilise en de nombreuses autres circonstances pour parler de ceux qui travaillent à ses côtés, au service de Dieu. On suppose certains d'entre eux, comme Tite ou Timothée, dans le ministère à plein temps. D'autres, on ne sait pas. Il parle de certaines personnes comme étant ses collaborateurs. On ne sait pas quelle est leur situation vis-à-vis de ça. Mais au moins pour deux d'entre elles, pour deux de ces personnes, on est sûr que non. On est sûr qu'il ne s'agit pas de personnes à temps plein dans le service du Seigneur. De qui s'agit-il ? Je vous le donne en mille. Priscille et Aquilas, les fabricants de tentes de Corinthe, avec qui Paul a travaillé. Deux, Paul écrit dans l'Épître aux Romains, et les décrit comme ceci, les appelle « mes collaborateurs dans le Christ Jésus ». Et quel collaborateur, hein, de quelle qualité, nous l'avons vu, ne serait-ce que par leur action auprès d'Apollos, et on les voit encore dans d'autres cas, et Paul loue leur service. Et puis, est-ce que je dois vous rappeler que l'apôtre Paul, lorsqu'il était à Corinthe, lorsqu'il a séjourné à Corinthe, a souhaité n'être à la charge de personne, et c'est pour ça qu'il fabriquait des tentes avec Priscille et Aquilas, qui étaient eux-mêmes fabricants de tentes. Et ainsi, l'église de Corinthe comptait en son sein plusieurs fabricants de tentes. Pourquoi pas ? Nous avons bien chez nous plusieurs fabricants de pneus. Mais surtout, ce qu'on voit durant cette période, c'est que le travail de Paul n'est pas une façade, c'est pas une couverture, Et il semble bel et bien occupé à temps plein par le travail de la fabrication de tentes et ne s'adonner à son ministère d'évangélisation que le jour du sabbat dans la synagogue, une seule fois par semaine. Alors, peut-être lui arrivait-il d'aller à la rencontre des gens dans les rues de Corinthe, certains soirs par semaine, ça c'est fort possible, fort probable, mais le texte est clair, et lui-même appuie plusieurs fois sur ce point dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Il subvenait à ses propres besoins, ce qui à l'époque, qui ne connaissait pas les 35 heures, nécessitait de longues journées de travail manuel. Tous ces épisodes entre ces différents protagonistes, vous pouvez les relire, c'est très intéressant. J'en ai fait une bonne partie de mes lectures de vacances dans les chapitres 18 et 19 des Actes. Pour autant, c'est bien de cette période que Paul parle quand il se considère, lui et Apollos, donc cette période pendant laquelle il était travailleur manuel, c'est-à-dire qu'il n'était pas à plein temps au service du Seigneur. Et c'est bien de cette période qu'il parle quand il se considère, lui et Apollos, comme collaborateurs de Dieu. Être ou non à plein temps dans le ministère ne semble pas être pour lui un critère de différenciation entre ceux qui pourraient être considérés comme collaborateurs de Dieu, ceux qui ne le pourraient pas, en tout cas, pas pour lui-même. Le terme donc de collaborateur est bien plus large que celui d'ouvrier. Et en ce sens-là, je vous invite vraiment à retenir cette idée que ouvrier avec Dieu, c'est vraiment collaborateur de Dieu. Et même la traduction, les traducteurs qui ont choisi de prendre le mot ouvrier ont quand même eu la bonne idée de mettre ouvrier avec Dieu, ce qui fait quand même ressortir cette idée de collaboration beaucoup plus que si c'était ouvrier de Dieu. Et donc la notion collaborateur de Dieu est quand même plus large, beaucoup plus large que ouvrier de Dieu. Et à ce stade, c'est un peu la notion de disciple qui est en train de se dessiner. Nous l'avons dit, le champ, c'est nous. Mais ce champ est en extension. L'édifice, c'est nous, c'est l'Église. Mais cet édifice est en construction. Et maintenant, nous devenons progressivement les collaborateurs de Dieu dans le champ et à l'édifice. Nous finissons par nous trouver concernés par des choses qui ne nous semblaient pas destinées a priori. Nous sommes tout à la fois collaborateurs de Dieu auprès des autres et ouvriers sur nous-mêmes, puisque toutes ces images sont tellement imbriquées que nous sommes aussi ouvriers, mais aussi ouvriers sur nous-mêmes. Et lorsque Jésus dit « Faites de toutes les nations des disciples », c'est à ceux qui sont déjà disciples qu'il s'adresse et qui vont à leur tour planter, arroser un champ nouveau de disciples que Dieu fera croître. L'image du champ, c'est une image extensive. C'est la dimension horizontale du chantier du Seigneur. Et toute la première partie du chapitre, jusqu'à cet instant, jusqu'au milieu de ce verset, qui dit « Vous êtes le champ de Dieu vous êtes ». Toute cette première partie du passage était illustrée par l'image d'une activité agraire, planter, arroser, faire croître. Et à cet instant précis, c'est une autre image qui se met en place. Construction de Dieu vous êtes l'édifice de Dieu. Et dans toute la seconde partie du chapitre que nous prendrons la semaine prochaine, nous basculons sur une image immobilière. Nous passons d'une image agraire à une image immobilière, celle d'un édifice en construction. Et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Voilà, pour l'heure, je voudrais vous demander si nous pouvons chanter un chant. Nous sommes le peuple de Dieu qui dit ce que nous sommes. Nous avons dit que c'était le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est nous maintenant, nous sommes le champ de Dieu, la construction de Dieu, Nous sommes collaborateurs avec Dieu. En un mot, nous sommes le peuple de Dieu.